94.
Ah, c'est acrobatique, hein. Mais c'est toujours comme ça les samedis quand je prends l'antenne en direct, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique, soit en direct. Et en général, quand c'est en direct, c'est comme ça, c'est un peu acrobatique et je perds mon souffle. Faut dire que je viens de danser pendant une heure encore avec toutes ces musiques que nous a proposé Enrique. En plus, aujourd'hui, t'es accompagné de Pauline, mais c'est sympa parce que moi, du coup, je vais me retrouver encore seul dans ce studio. Mais je compte sur vous, amis auditeurs, pour m'accompagner et pour traiter, commenter l'actualité scientifique. Faut dire que l'actualité scientifique aujourd'hui, franchement, elle nous gâte. Là, on va parler de deux grandes thématiques, précisément. On va parler de Mars. Et on va parler du coronavirus parce que peut-être aussi essentiellement des vaccins. On entend tellement de choses en ce moment qu'on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Moi, personnellement, je ne sais plus dans quelle catégorie de tranche d'âge j'ai, quand est-ce que je me ferai vacciner, est-ce que je suis une personne à risque ou pas, j'en sais rien. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu plus parce qu'on entend des choses aussi sur les effets secondaires des vaccins. Faut essayer de prendre, comme je vous l'ai dit en ce début d'année, je vous ai souhaité de prendre du bon sens et de prendre du recul. C'est ce que nous allons faire dans cette émission pendant une heure. Vous nous écoutez sur graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet et la bande FM 94.9, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Enrique, tu as raison, on ne sait pas trop ce qui nous attend les prochaines semaines. Donc là, on profite d'être en direct pour faire les émissions. Et on va essayer peut-être de prendre aussi un petit peu d'avance pour essayer d'anticiper un certain confinement qui semble se pointer au niveau des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Donc de peut-être anticiper un peu les émissions de ce mois de mars. On en est à un point qu'on ne sait même pas ce qui nous attend. C'est dire que depuis un an, on est quand même assez dans une situation assez rocambolesque. Vous souhaitez réagir, faites-le par SMS exclusivement, étant donné que je suis seul, je ne peux pas assurer, je dirais, un standard téléphonique comme l'émission d'avant, 06 95 065 026 06 95 065 026. Au menu donc Mars et le coronavirus. Nous sommes le 27 février pour l'éphéméride. Alors il y a quand même deux informations au niveau de l'éphéméride très importantes ce 27 février. Le 27 février 1925, il y a le Norvégien qui s'appelle Thor Bjørklund. Il dépose un brevet du rabot à fromage. Alors quand vous apprenez ça, vous vous dites que notre vie a totalement changé depuis 1925. Plus sérieusement, on a découvert le carbone 14. Là, quand même plus intéressant, c'était un 27 février 1940. Naissance, le 27 février 1897 de Bernard Liot. C'est un astronome français, il est inventeur notamment du coronographe qui porte son nom. Coronographe, je vous dis que c'est un mot qu'on a... je sais pas, ça me dit quelque chose. En fait, c'est une technique en astronomie qui consiste à reproduire le phénomène céleste des éclipses totales. On se rappelle que coronavirus, cette idée de corone, c'est une couronne. Et donc l'idée de l'éclipse également totale, c'est que quelque part, on se souvient de cette éclipse de soleil une vingtaine d'années. On avait cette couronne que l'on voyait. Et donc, c'est ce qui a donné le nom de cette technique en astronomie, la coronographie. Et c'est donc Bernard Liot qui est né un 27 février, qui est donc l'auteur, l'inventeur, je vais y arriver, de cette technologie. Décès de Pierre Delay, le 27 février 1981, aviateur français, pionnier de l'aéropostale, Pierre Delay. Dont on célèbre donc le décès aujourd'hui, 27 février. Déjà le 27 février, il y a deux mois que cette année a commencé. Et on s'est dit, franchement, en 2021, c'est l'année du bout du tunnel. Eh bien, le bout du tunnel, ça va être essentiellement du côté de Mars, où ça va se passer. Vous le savez, sans surprise, le rover Perseverance s'est bien posé sur la planète Mars. Après un voyage de plusieurs mois qui a débuté en juillet dernier, le rover a atterri dans un cratère, le cratère Jezero, c'est un bassin de 45 km de diamètre. C'est un cratère quand même assez conséquent, hein, 45 km de diamètre. Et on estime qu'il y a une rivière qui a rempli ce cratère d'eau liquide. Il y a déjà longtemps, c'était il y a 3 milliards 500 millions d'années, donc ça remonte à assez loin. C'est un site qui n'est pas choisi au hasard, car l'équipe de cette mission est convaincue que ce cratère abrite de nombreux fossiles de micro-organismes. S'ils ont existé, bien évidemment. Je rappelle que l'objectif de cette mission, c'est de pouvoir essayer d'identifier, de retrouver des preuves de vie. En fait, on se dit que cette planète Mars était habitable A-t-elle été habitée? C'est toute la question. Alors, les premières images couleur ont été rendues publiques, vous le savez. On a vu ça un petit peu partout et c'est très bien parce que pour une fois, l'actualité scientifique était sur le devant de la scène pour une bonne chose. Et il y a également ces 7 minutes de terreur, c'est-à-dire au moment où cette traversée de l'atmosphère a eu lieu. On en avait parlé dans cette émission, je crois, début février. Vous avez pu suivre ça également. On dirait que c'était assez intéressant. Les opérations scientifiques vont débuter. Il faut d'abord que la NASA teste un petit peu tous les équipements scientifiques, les systèmes du rover pour s'assurer bien sûr du bon fonctionnement. Alors, il faut savoir que Perseverance est aussi la première mission martienne de ce qu'on appelle l'exobiologie, biologie vie derrière. Et l'idée, donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de trouver des traces de vie éteinte. Si la vie a existé, elle s'est très vraisemblablement présentée sous la forme de bactéries. Et en fait, on estime que ça n'aurait pas dépassé ce stade, car on pense que l'eau à l'état liquide était présente sur Mars seulement quelques centaines de millions d'années. Si bien qu'on considère que s'il y a eu vie sur Mars, c'était au niveau bactéries, il n'y a pas eu le temps de mettre en place une certaine évolution. Donc, Perseverance, cette mission marque également le coup d'envoi de l'ambitieuse mission de retour d'échantillons martiens. Cette mission va donc se dérouler en plusieurs étapes. Elle va s'étaler sur une dizaine d'années. Je vous l'ai dit, la décennie 2020 va être totalement géniale d'un point de vue spatial. Je ne vous avais pas menti comme jamais de toute façon. C'est-à-dire qu'on va suivre pendant toute cette décennie cette conquête spatiale et cette conquête martienne. Cette mission va comprendre plusieurs éléments qui vont être réalisés par la NASA et par l'Agence spatiale européenne, l'Europe, qui réalisera le satellite de capture et de retour vers la Terre avec le bras de récupération, pouvoir transférer les échantillons dans un conteneur et ainsi de suite. C'est l'Europe qui va pouvoir travailler sur ça. Perseverance, c'est le 5e rover que la NASA pose sur Mars. Il y avait Sojourner en 1997, déjà il y a longtemps finalement, les rovers Spirit et Opportunity en 2002, et Curiosity, on en avait parlé en 2012. C'était un petit peu aussi l'actualité, le fil rouge de cette décennie 2010. C'est donc un succès technologique, bien sûr. Est-ce que ça va être un succès scientifique? Eh bien, réponse dans les prochains mois, bien sûr. Mais question, finalement, quel est l'intérêt d'aller explorer Mars? Parce qu'il y a quelque part une certaine fascination pour cette planète depuis des siècles. La planète Mars exerce un petit peu sur les hommes une sorte de fascination, déjà par sa couleur, parce que assez rouge, donc ça rappelait un peu l'idée du sang. Et on a en fait associé le nom de cette planète au nom du dieu de la guerre qui s'appelle Mars, donc avec cette idée de couleur rouge. Et puis aussi pour son apparence un peu plus générale, parce qu'il y a des motifs, il y a des formes un peu intrigantes qui ont été révélées par les premiers instruments astronomiques à la fin des années 1800. Et donc, ça a pu laisser croire un peu à l'existence de petits hommes verts, entre guillemets. En tout cas, on s'est dit, il y a bien quelqu'un, quelque chose, qui aurait construit un petit peu ces canaux. Mais si les astronomes s'intéressent aujourd'hui autant à Mars, eh bien, c'est en premier lieu, d'un point de vue pratique, parce que sa relative proximité la rend totalement atteignable pour les sondes que l'on envoie, pour les rovers qu'on envoie depuis la Terre. C'est la cible de beaucoup de nations. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a les Émirats Arabes Unis également qu'on avait évoqués dans cette émission. Mars semble être devenu un petit peu l'enjeu d'une nouvelle course à l'espace. Même si l'exercice reste périlleux, sur la cinquantaine de missions lancées depuis les années 60, eh bien, il y a une vingtaine seulement qui a été couronnée de succès. Alors, si les astronomes s'intéressent à Mars, c'est aussi pour sa ressemblance avec notre planète Terre. Une période de rotation qui est assez proche, une taille qui est assez semblable, une composition rocheuse également. Et donc, les scientifiques estiment que jusqu'à il y a donc à peu près 3 milliards 500 millions d'années, Mars aurait pu être habitable tout autant que la Terre. Et donc des études et des missions d'exploration ont montré déjà que l'eau a coulé sur la planète rouge, bien sûr par le passé, et ce qui laisse un petit peu ces traces de fleuves, de bassins. Il faut dire que Mars était à l'époque plus chaude qu'aujourd'hui, son atmosphère était plus épaisse, et puis la planète a connu un violent changement climatique. Et c'est une autre raison de poursuivre un petit peu l'exploration de Mars, c'est pour comprendre comment s'est produit un tel changement, c'est d'essayer d'identifier en fait clairement les conséquences qu'a eu ce changement sur Mars. Et aujourd'hui, l'atmosphère de Mars, elle est riche en dioxyde de carbone, c'est-à-dire qu'elle est totalement irrespirable, qui nous dit que finalement, cette atmosphère un peu irrespirable de dioxyde de carbone est totalement incompatible avec la vie. Tout comme les composés toxiques également, qui sont présents dans le sol de Mars. En plus, l'eau, elle existe, mais elle n'est pas sous forme liquide, elle est sous forme de glace. Donc, ceux qui espèrent trouver des traces d'une vie martienne même éteinte, eh bien, placent quand même toujours Mars en tête de leur liste des planètes à explorer. C'est à côté, et on se dit qu'il y a un potentiel pour découvrir quelque chose. Donc, il y a l'idée de pouvoir étudier sur place les roches, étudier les sédiments, étudier les sols martiens, étudier les volcans, les cratères d'impact, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, et puis essayer d'étudier tous les processus géophysiques qui se sont produits sur Mars. Ça permet en fait de mieux comprendre l'histoire de Mars et aussi peut-être quelque part par analogie de mieux comprendre l'histoire de la Terre. C'est aussi un petit peu cette idée. Des échantillons de son atmosphère pourraient aider à révéler des détails cruciaux de la formation et de l'évolution de Mars et donc aussi de la Terre, c'est tout l'intérêt. Maintenant, on essaye de comprendre aussi un petit peu pourquoi l'atmosphère est de cette façon sur Mars et pas sur Terre. Donc on va pouvoir essayer de faire des simulations, des comparaisons, des analogies également. Le but des missions de ces robots qu'on envoie sur Mars, c'est aussi de préparer, bien sûr, l'arrivée de l'homme sur Mars. Et en la matière, il y a bien sûr beaucoup à faire. Il faut déterminer où se trouvent les ressources en eau les plus accessibles. Il faut évaluer les risques biologiques dans le sol. Il faut évaluer un petit peu les risques liés à la poussière sur Mars. Et puis, il faut essayer de limiter les risques sur place. Et puis aussi, il faut envisager, parce qu'on a beau aller sur Mars, il faut aussi pouvoir y revenir. Donc il y a tout ça à prendre en considération et à étudier. Donc l'exploration de Mars aujourd'hui par des rovers, ça permet de tester des technologies qui pourraient permettre donc à des humains de pouvoir coloniser la planète rouge, des technologies de production d'oxygène, ce qui va être important bien sûr, parce que si on est dans une atmosphère de dioxyde de carbone, ça va être assez difficile. Aussi des technologies de production de nourriture sur place. Bref, le temps est désormais compté parce que la NASA a d'ores et déjà annoncé son ambition d'envoyer des hommes vers Mars avant la fin des années 2030. 2030, c'est demain, en fait, objectivement. C'est dans moins de 20 ans. On va pouvoir assister, en fait, à l'arrivée des premiers hommes sur Mars. C'est le programme qui nous attend pour ces prochaines années. Et donc, aujourd'hui, on prépare un petit peu tout ça, parce que c'est long, déjà, pour aller là-bas. Et on n'y va pas pour passer un week-end. Donc, du coup, il va falloir essayer de trouver toutes les technologies possibles pour pouvoir vivre, coloniser cette planète. 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir en direct dans cette émission, n'hésitez pas par SMS exclusivement. Je vous ai dit qu'on parlait de Mars. On va écouter un petit titre et après, on va essayer d'expliquer pourquoi le son qu'on a réussi à capter sur Mars, vous l'avez peut-être entendu, c'était aussi l'une des informations de cette semaine, pourquoi le son est un petit peu différent de celui qu'on écoute sur Terre. On va voir cela juste après ce petit titre qu'il faut que je prépare. Il s'agit de Angus et Julia Stone sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de l'actualité scientifique.
It's been days now, and you change your mind again. It feels like years, and I can tell how time can bend your ideas. And the boys go on and on and on. Go on and on and ceiling of this world, falling from the heartbeat of this girl, falling from the things we should have learned, falling from the things we could have heard. Well, it's been days now, and you change your mind again. Cracks in the walls remind you of things we said. And I could tell you that I won't hurt you this time. But it's just safer to keep you in this heart of.
And Julia Stone avec And The Boys sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'actualité scientifique décryptée pour vous toutes les semaines pendant une heure. On s'arrête un petit peu pour voir ce qui se passe au niveau de l'actualité scientifique. Et l'actualité scientifique depuis 15 jours à peu près, c'est bien sûr ce qui se passe sur Mars. Donc c'est un petit peu la thématique de cette émission. Il faut dire que jamais un son audible par les êtres humains n'avait encore été enregistré sur Mars. Et donc cette semaine, la NASA a présenté le premier son enregistré avec un micro sur la planète rouge par l'intermédiaire donc de ce rover Perseverance. Il y a deux extraits qui ont été présentés, l'un sans les sons du rover lui-même et l'autre qui inclut ces sons, et on entend un peu le bruit d'une espèce de brise martienne. Alors on va faire une première dans cette émission. J'ai récupéré le fichier son de ce que l'on entend sur Mars. Alors ça va pas être concluant, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai peur qu'on n'entende pas grand-chose. C'est un extrait qui dure 18 secondes. Alors je vais mettre le son à fond parce que c'est très 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 faible. Je vais couper mon micro et pendant 18 secondes, nous allons écouter ce qui se passe sur Mars. Thank you. Voilà, c'est assez fascinant, je trouve. Bon, on n'entend pas grand-chose. Hein. C'est comme un peu comme du vent qu'on aurait sur un micro. C'est assez lointain. L'enregistrement a été réalisé à l'aide des deux microphones de Persévérance. C'est lui qui est positionné sur le côté du rover et qui était destiné à capter le son au cours de la descente du robot sur Mars. Et s'il n'a pas obtenu de données exploitables lors de l'atterrissage, eh bien, ce micro a pu enregistrer dès le lendemain. Donc, c'était le 20 février. Il y a donc une semaine, il a pu enregistrer ses sons à la surface de Mars dans ce fameux cratère G0 où est posé donc ce rover. Alors, ces enregistrements sont brefs, là je vous l'ai dit, 18 secondes, c'est ce qui a été diffusé par la NASA, mais assez suffisant pour faire le constat que le son sur Mars paraît bien différent de celui que l'on peut entendre sur Terre. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, la NASA, sur son site consacré à la mission Mars 2000, explique « Si vous étiez sur Mars, vous entendriez une version plus silencieuse et plus étouffée de ce que vous entendriez sur Terre et vous attendriez un peu plus longtemps pour l'entendre. » C'est pour ça que c'est assez lointain, que c'est assez diffus, que c'est assez étouffé. Cela vient du fait que l'atmosphère sur Mars ne ressemble pas exactement à l'atmosphère terrestre, hein, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Le plus grand changement dans l'audio, dans ce que l'on peut entendre, concernerait les sons aigus, plus élevé que la plupart des voix. Il y a certains sons auxquels nous sommes habitués sur Terre, les sifflets, les cloches, les chants d'oiseaux, seraient presque inaudibles sur Mars. C'est ce qu'explique la NASA. La densité, la chimie de l'atmosphère martienne diffère donc de celle de la Terre, ce qui a trois impacts sur le son que l'on entendrait. Même si on se positionnait sur Mars, admettons, on est sur Mars, on n'a pas du tout de combinaison, donc on a vraiment les oreilles nues, entre guillemets, et bien on aurait quand même vraiment des difficultés, parce que les sons mettraient plus de temps à parvenir à nos oreilles. Sur Mars, la température en surface, elle est en moyenne de moins 63 degrés Celsius. On est quand même assez loin de cette vague de froid qu'on a connue il y a 3 semaines, où on grelottait parce qu'il faisait moins 5. Là, on est à moins 63 sur Mars. Et donc, la vitesse du son, elle est plus lente. Elle est de 240 mètres par seconde. Alors déjà, 240 mètres par seconde, c'est pas mal. Sur Terre, elle est quand même de 340, donc c'est quand même beaucoup plus rapide sur Terre. Et le niveau sonore serait plus bas sur Mars, car l'atmosphère, elle est moins dense que sur Terre. Et donc, il faudrait être beaucoup plus proche de la source d'un son pour pouvoir l'entendre si on le met sur un même volume que la Terre. Donc, il faut vraiment être à côté pour pouvoir entendre quelque chose, alors que sur Terre, le son porte plus, quelque part. Il y aurait aussi un effet d'atténuation, c'est-à-dire un genre d'affaiblissement du signal à certaines fréquences. Cela est dû au fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'atmosphère martienne est composée en grande majorité, même à 96% de carbone. Et donc, du coup, ça va absorber un peu les sons aigus, ça va laisser les sons plus graves parcourir des distances plus importantes. Et effectivement, dans l'extrait qu'on vient un peu d'écouter, entre guillemets, on est sur un son étouffé et sur un son un peu plus grave. Si on pouvait écouter nos propres sons sur Mars, eh bien, il y aurait donc un petit peu une modification de notre perception par rapport aux mêmes sons qu'on entendrait sur Terre, ce qui, du coup, pourrait nous perturber un peu. C'est aussi un élément qu'il va falloir prendre en considération quand on va envoyer des hommes sur Mars, c'est-à-dire que toutes ces perceptions auditives vont être également modifiées. Et il va falloir s'habituer à cela. Mais on va continuer quand même à essayer d'avoir un peu plus d'informations et d'éléments sur le son. Alors, on n'a pas envoyé des micros comme ça pour enregistrer ce qu'on écoute sur Mars. Ok, c'est génial, c'est assez intéressant, bien sûr, parce que c'est la première fois qu'on écoute ce qui se passe sur Mars. Mais en fait, l'idée des micros, c'est tout simplement de servir un petit peu de laser, quelque part, pour projeter ce laser sur les roches et d'essayer, en ayant un retour de ça, d'avoir des informations sur la composition de ces roches. Donc on est bien derrière sur une exploration de Mars, sur une exploration des roches, des cratères, ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de mieux comprendre comment est composée cette planète et du coup on utilise ce système de micro pour pouvoir glaner un peu plus d'informations. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir sur l'actualité de Mars, bien sûr. Dernière chose, concernant Mars, bon, c'est un petit peu plus anecdotique, mais bon, comme on s'est dit, tiens, on va partir sur Mars, on va faire des petits messages cachés. Et il y en a eu plusieurs qui ont été dévoilés. D'ailleurs, le premier message caché, je vais y arriver, c'est « Dare mighty things ». Ça veut dire « oser de grandes choses ». C'est le message qu'un ingénieur de la NASA avait dissimulé sur le parachute du rover Perseverance quand on a déployé ce parachute lors de l'atterrissage du rover sur Mars. Et en fait, ce message, il était dissimulé sous la forme d'un code binaire sur le parachute. Vous pouvez trouver sur Internet un petit peu les images de ce parachute et de ce code binaire, oser de grandes choses. Voilà, c'est une petite touche personnelle qui semble n'être que l'un des nombreux exemples de messages et de secrets que cache le rover. Apparemment, il y a plein de choses qui ont été mises en secret dans ce rover et qu'on a envoyé sur Mars. Des choses ont été révélées, d'autres non. Alors déjà, le portrait de famille, bien sûr, parce que Perseverance, c'est, comme je vous l'ai dit, le cinquième rover que la NASA envoie sur Mars. C'est le plus grand, le plus lourd, le plus propre, le plus sophistiqué de tous, et rien de cela n'aurait été possible sans le succès de ses prédécesseurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc, il y a une plaque qui est imprimée sur le rover et qui présente tous ces rovers anciens qui ont séjourné sur place. On a rajouté également cet hélicoptère martien qui a été emporté sur place par Perseverance, qui s'appelle Ingenuity, qui a fonctionné également cette semaine, qui a pu se poser également. C'est totalement fascinant sur ce qui se passe sur Mars. Donc voilà, on a gravé tout ça et on a mis ça sur une plaque. Autre chose, on a un genre de caméra également un peu sophistiquée qu'on appelle une mast cam, et pour pouvoir essayer d'étalonner un petit peu cet instrument de mesure, les ingénieurs utilisent un petit peu comme une mire ou une cible avec des nuances de gris, des nuances de couleur pour pouvoir étalonner un petit peu cette caméra. Et donc du coup, on a, pour pouvoir étalonner ça, dessiné ces différentes cibles de nuances de couleurs directement sur l'engin pour qu'il puisse s'étalonner en direct, évidemment. Et donc, autour de ces différentes cibles de couleurs, eh bien, les chercheurs ont tenu à faire figurer des images de la vie sur Terre également. Donc, on peut voir une fougère, on peut voir un dinosaure, on peut voir un homme et une femme. Et puis, autour, il y a une inscription qui a été réalisée directement sur le rover, qui est sommes-nous seuls, point d'interrogation, nous sommes venus ici pour chercher des signes de vie et pour collecter des échantillons de Mars pour les étudier sur Terre. À ceux qui liront ça, nous souhaitons un bon voyage et la joie de la découverte. Ok, très bien, on imagine donc s'il y a quelqu'un qui arrive, s'il y a des martiens, et bien du coup ils vont peut-être pouvoir directement lire le message, ils vont le comprendre, on n'en doute pas. Autre message, celui qui a été gravé en morse également, et puis également les 11 millions de noms de ceux qui ont souhaité accompagner symboliquement Perseverance, qui ont été mentionnés également. Bref, il y a eu pas mal de choses qui ont été envoyées directement sur Mars. Si quelqu'un découvre ça, il va pouvoir se dire « Mais tiens, on est en train de nous parler, on est en train de nous dire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est une fougère ?» Voilà, c'est ça qui a été envoyé sur Mars, c'est un petit peu l'anecdote également, pour rendre aussi cette aventure spatiale un peu plus joyeuse également et nous permettre un petit peu de nous intéresser un peu plus sur ce qui se passe sur Mars. Voilà donc l'actualité de Mars depuis 15 jours, on n'arrête pas d'en parler. Il est évident dans cette émission Biotine qui souhaite parler de l'actualité scientifique, il est évident de faire une thématique sur Mars aujourd'hui dans cette émission d'aujourd'hui. Avant d'écouter un autre titre dans cette émission, il y a deux informations qui ont été dévoilées ces derniers jours. Première information, c'est la naissance de ce bébé qui est né le 12 février à l'hôpital Foch de Suresnes dans le département des Hauts-de-Seine. C'est la naissance d'un bébé, ok, on se dit finalement il n'y a rien du tout de nouveau, et en fait si, parce que c'est la naissance d'une petite fille qui est née avec 1,8 kg, qui est une naissance exceptionnelle parce que sa maman, elle, est née sans utérus. En fait, sa maman devient la première patiente, il y a 2 ans, à recevoir une greffe d'utérus en France. C'est une opération délicate qui a été menée par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi à l'hôpital Foch, donc de Suresnes. On en avait parlé dans cette émission, de cette greffe d'utérus. Et donc, moins de 2 ans plus tard, eh bien, cette maman, Déborah, vient de donner naissance à son premier enfant. Le communiqué de presse de l'hôpital Foch partage donc des nouvelles du bébé de la maman. On sait donc que la petite fille est née à 33 semaines de grossesse. Pardon, excusez-moi, elle est donc prématurée, elle fait l'objet d'un suivi médical rapproché, mais elle est en parfaite santé, tout comme sa maman, c'est ce qu'on nous indique. Cette naissance représente bien sûr un formidable espoir pour toutes les femmes qui sont nées sans utérus ou avec un utérus dysfonctionnel. La maladie génétique qui a privé donc cette maman de son utérus porte le nom de syndrome de Rokitansky. En fait, ça concerne tout de même une femme sur 4500. Quand même assez important, et elle est caractérisée, cette maladie, par une malformation congénitale de l'utérus et des deux tiers supérieurs du vagin. Dans le monde, il y a eu d'autres bébés qui sont nés à la suite d'une greffe d'utérus, notamment en Suède, grâce à l'équipe du professeur Mats Brandstorm, qui est pionnier des greffes d'utérus. Mais là, c'était la première en France, donc, de ce bébé né d'une greffe d'utérus il y a à peu près, je crois, 15 jours. On en a également entendu parler, c'était une belle et une bonne nouvelle. Autre information, vous en avez entendu parler également, et ça a été révélé par Libération cette semaine, la fuite d'une ampleur sans précédent en France. Les données personnelles et médicales de près d'un demi-million de personnes sont librement accessibles sur un forum du Dark Web, hein, cette espèce d'Internet un petit peu... Le Dark Web, vous voyez, c'est un petit peu cette idée du faux... Enfin, pas du faux Internet, mais d'un Internet un peu particulier où on peut retrouver donc ces éléments. La publication qui date du 12 février a d'abord été repérée par le site Zatar, et c'est le service Check News du quotidien Libération qui est parvenu à identifier la source de ces données. Les informations proviennent donc d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale situés en France et notamment dans des différents départements, le Morbihan, l'Eure, le Loiret et les Côtes-d'Armor et le Loir-et-Cher. La base de données contient en tout près de 490 000 lignes. Chacune correspond donc à un patient avec jusqu'à environ 60 informations personnelles. Cette fuite date d'il y a 4 mois, novembre 2020, et concerne des prélèvements qui avaient été effectués en 2018 et 2019. Alors, ce fichier partagé donc sur le Dark Web contient des données personnelles, bien sûr, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance. Mais ce qui rend un petit peu cette fuite d'informations unique, c'est l'inclusion de données médicales, le groupe sanguin, le médecin traitant, le numéro de sécurité sociale, tout ce qui est élément lié à la mutuelle, et aussi des commentaires sur l'état de santé ou le traitement suivi également. Et donc, avec de telles informations personnelles, l'usurpation d'identité devient finalement maintenant un jeu d'enfant. Et puis, des pirates pourraient essayer de viser ces personnes avec une attaque ciblé par mail, notamment ce qu'on appelle le phishing, en se faisant passer pour un professionnel de santé, par exemple. Donc, soyez attentifs, soyez vigoureux. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand on reçoit un mail compliqué de quelqu'un qui vous demande des sous, c'est toujours derrière quelque chose d'un peu louche. Donc, faites attention. Il y a notamment sur certains sites que je n'ai pas noté en France, la possibilité de savoir si nos propres données personnelles, si on fait partie en fait de ces 500 000 personnes qui ont vu leurs données personnelles sur le Dark Web. Voilà, donc c'est deux informations qui ont été évoquées cette semaine. Cette naissance première en France, c'est une bonne nouvelle, et donc ces données médicales qui ont été vendues sur le Dark Web. Ça va être aussi quelque part ce qu'on appelle du cyberterrorisme, bien sûr. Cette idée, on parle aussi de ces hôpitaux, ces établissements de santé qui sont également la cible de rançons également. Enfin, ça devient assez compliqué parce qu'on s'attaque à des données personnelles et médicales qui, du coup, n'épargnent personne d'entre nous. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces deux informations. On va écouter un petit titre et on se retrouve juste après. Et on va parler cette fois du coronavirus avec l'idée de savoir si avoir quelques effets secondaires après un vaccin, est-ce que c'est quand même bon signe ? On entend tellement de choses dessus, eh bien, on va en parler dans cette émission. À tout de suite.
Singing, the throat cold water.
Je ne sais pas si on écoutera ça sur Mars. En tout cas, sur Terre, oui, Santa Cruz avec On The Loose sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9. Pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, oui, 94.9, c'est la bande FM, et graphite.net sur Internet, que ce soit en direct ou en différé, car vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de l'émission 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct par SMS, n'hésitez pas. Pas de Facebook Live aujourd'hui, parce que Mathéo, il a pris des congés. Alors maintenant, les jeunes, ils prennent des congés, comme ça, on ne s'en sortira jamais, donc il n'y a pas de Facebook Live, mais on se retrouvera, j'espère, prochainement, bien sûr, par le biais de la vidéo sur la page Facebook de Graphite. De toute façon, nous vous incitons à, comme vous êtes curieux, à vous à liker, comme on le dit, cette page Facebook, bien sûr, et vous aurez toutes les informations sur la programmation de Graphite, bien sûr. On parle donc de la crise sanitaire, et notamment donc cette fois-ci de la campagne vaccinale. Alors, je me souviens plus des chiffres évoqués hier, j'ai pas regardé ce matin, je crois qu'on est à peu près à 4 millions de personnes, il me semble, qui ont reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés. Il y a les deux vaccins à ARN messager, celui de Pfizer et de Moderna, et puis il y a le vaccin qui est basé sur un vecteur viral qui est celui d'AstraZeneca. Les effets secondaires qui sont provoqués par ces vaccins sont étroitement surveillés par l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'ANSM qui publie régulièrement un rapport détaillant les effets secondaires apparus à la suite des injections. Et donc le site d'information Futura Science nous propose un article qui va un petit peu résumer ce que l'on a comme information sur ces effets secondaires et de se poser la question de savoir si avoir un effet secondaire après un vaccin, est-ce que c'est quand même bon signe ? Du coup, on essaye d'en savoir un petit peu plus parce que ces effets secondaires inquiètent un peu la population et il faut essayer de savoir quels sont ces effets secondaires. S'ils sont légers, s'ils sont brefs, s'ils sont sans conséquences pour la santé, un effet secondaire suite à un vaccin est bon signe parce que ces effets secondaires témoignent justement de l'activation du système immunitaire. C'est totalement le but du vaccin. Donc s'il y a cette réaction, c'est tant mieux, c'est que le vaccin fonctionne. C'est pas, le vaccin provoque la réaction que l'on souhaite mettre en place, c'est-à-dire stimuler le système immunitaire avec un élément pathogène qui va être affaibli pour essayer de créer des défenses prêtes à attaquer quand il y aura cette fois une vraie rencontre avec cet élément pathogène et tout cela sans provoquer une maladie grave. C'est le principe du vaccin. Mais que se passe-t-il justement, précisément, quand l'organisme est infecté par un pathogène ? Eh bien, il se défend. C'est totalement normal, c'est le rôle du système immunitaire. Donc, le système immunitaire va essayer de détecter un pathogène qui est venu là, dans l'organisme, et c'est pas normal, une espèce d'intrusion. Donc, il va réagir par l'intermédiaire d'une multitude de réactions pour essayer d'éradiquer cette menace. Et dans le cas justement de ce virus, eh bien, on est bien dans l'idée d'un virus qu'il faut bien comprendre, un virus c'est un parasite. C'est-à-dire que le virus, il ne va pas pouvoir, il est obligé de pénétrer à l'intérieur des cellules pour pouvoir se développer, se multiplier, mais il faut qu'il soit malin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à tuer la cellule. C'est vraiment l'idée du parasite, justement. Si le parasite tue son hôte, eh ben, il se tue lui-même. Donc, il faut pénétrer dans les cellules du corps humain, et pouvoir ensuite se multiplier, mais pour pouvoir infecter d'autres cellules, et ainsi de suite, mais il ne faut pas que l'organisme meure, sinon ça n'a aucun intérêt pour le virus. Donc il faut essayer pour lui de trouver un espèce d'équilibre. Et le système immunitaire va justement essayer d'engager un petit peu des soldats spécifiques face à cette menace, ce qu'on appelle des anticorps, qui vont empêcher justement le virus d'entrer dans la cellule du corps humain. Et en plus, on va rajouter des lymphocytes cytotoxiques, cytocellules toxiques. Bon, ça peut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on a une cellule qui est infectée par un virus, ces lymphocytes vont pouvoir tuer ces cellules infectées. Et donc, comme je vous l'ai dit, si la cellule est morte, le virus, du coup, ne peut plus prospérer. Ce n'est pas son intérêt, il meurt aussi. Alors, c'est toute la stratégie vaccinale et c'est toute la stratégie du virus. Donc on est sur deux stratégies qui s'affrontent. Le virus doit pouvoir se répliquer dans la cellule du corps humain, pardon. Et la stratégie vaccinale, c'est de faire en sorte que le virus ne pénètre pas dans les cellules. Et donc on est dans cette double stratégie et ils s'affrontent un petit peu et c'est la réussite de la campagne de vaccin qui va pouvoir justement faire en sorte d'éradiquer cette épidémie planétaire. Et l'idée justement de pouvoir faire réagir le corps humain avec tout ce processus de réaction qui va se mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. C'est une réaction plutôt intense, à tel point qu'on en ressent parfois les conséquences. Et les symptômes les plus courants, d'une inflammation locale, ça va être des rougeurs, ça va être une sensation de chaleur, ça va être des douleurs qui vont irradier un petit peu la zone, des douleurs un petit peu sous forme de pulsation quelque part. Et il peut y avoir également des symptômes systémiques, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête. Et en fait, ces symptômes systémiques sont les effets secondaires les plus fréquemment rapportés à la suite de la vaccination contre la Covid-19. Mais ces effets secondaires disparaissent en quelques heures, en quelques jours. Ils ne sont pas inquiétants outre mesure. Et c'est justement, comme je vous l'ai dit, le témoin de la bonne réaction du système immunitaire chez une personne en bonne santé. Quelque part, malheureux à dire, Il vaut mieux avoir un mal de tête après un vaccin, bon, un mal de tête supportable et qui s'estompe rapidement, entendons-nous bien, je ne vous demande pas d'avoir une migraine pendant 3 mois, mais d'avoir une réaction et d'avoir des effets secondaires suite à ce vaccin, ce qui fait que le corps, du coup, est en train de réagir, ce qui explique un petit peu ces effets secondaires pas toujours agréables, et ça prouve quelque part une bonne réaction et une bonne efficacité du vaccin. Selon la nature du vaccin, en fait, les effets secondaires, ils peuvent être plus ou moins intenses. Et en fait, on s'est plutôt intéressé au vaccin d'AstraZeneca. En fait, quelque part, pour essayer de comprendre le fonctionnement de ce vaccin AstraZeneca, c'est ce qu'on appelle un vecteur viral, un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui va être incapable de se répliquer et qui va porter sur lui des protéines du virus que l'on souhaite, en l'occurrence ici, du virus de la Covid-19. Donc, on est dans une espèce de leurre, entre guillemets, c'est-à-dire un virus qui ne peut pas se répliquer, mais qui va porter, entre guillemets, les habits, un peu la panoplie du coronavirus que l'on souhaite éradiquer. Et ça, c'est le fonctionnement du vaccin AstraZeneca. Et ces vaccins, ils sont... Il provoque une réaction immunitaire beaucoup plus intense que les vaccins à ARN messager, celui de Pfizer et de Moderna. Si bien que l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé beaucoup de syndromes grippaux, en fait, qui sont liés à l'injection de ce fameux vaccin AstraZeneca. Et enfin, c'est pas une surprise, hein, ces symptômes qui arrivent après les vaccins sont connus. Ils sont un peu plus handicapant qu'un simple bras qui est un peu endolori. Enfin, on s'est tous fait vacciner contre la polio, le tétanos, puis des fois, on a une espèce de bras là, qui n'était pas génial quand on s'est fait vacciner, parce que c'était un peu lourd, ankylosé par la suite. Là, c'est un petit peu plus... des symptômes un peu plus sévères. Et sur 10 000 personnes qui ont reçu ce vaccin AstraZeneca, essentiellement dans le monde hospitalier, il y a eu 149 cas de syndrome grippaux qui ont quand même été signalés. Donc on sent que la réaction immunitaire avec le vaccin AstraZeneca est plus intense, mais quelque part peut provoquer aussi peut-être des effets secondaires un peu plus denses et un peu plus compliqués, entre guillemets. En revanche, des symptômes plus sévères ou inattendus et persistants, si ça arrive, cela n'est pas normal. Bien sûr, ça doit faire l'objet d'une prise en charge médicale, évidemment. Si ces effets sont compliqués, sont lourds, ne régressent pas, bien sûr, il faut quelque part avoir une certaine alerte et être vigilant sur ça et pouvoir ensuite directement se faire soigner. Tout ça est d'ailleurs signalé à l'Agence nationale de santé des médicaments qui va compiler, analyser toutes ces données et essayer de comprendre, parfois de faire des synthèses pour exploiter toutes ces données et voir un petit peu la fréquence, la gravité et même également avoir des informations sur la population touchée par ce genre de symptômes post-vaccinal. Bref, avoir des effets secondaires après un vaccin, oui, c'est bon signe. Donc, arrêtons de nous prendre la tête en nous disant « Ah oui, oh là là, ça me fait un petit peu mal parce que je me suis fait vacciner. » Oui, c'est normal, ça veut dire que ça fonctionne. Mais effectivement, il a été rapporté des cas, donc je vous l'ai dit, de syndrome grippaux, essentiellement pour ce vaccin AstraZeneca. C'est compliqué, c'est pas génial, bien sûr, c'est pas totalement agréable, mais ça reste là encore sur quand même des pourcentages de population infime, ce qui est totalement normal, quelle que soit la campagne vaccinale mise en place depuis des années et des années. Donc, prenons du recul, arrêtons d'être totalement effrayés par des informations que des fois on nous met avec des chiffres totalement faux. La campagne vaccinale a lieu depuis maintenant, je ne sais plus, 3-4 mois, je crois, un petit peu partout dans le monde. On n'entend pas dire quand même que il y a des choses qui se passent de façon dramatique suite à cette campagne vaccinale. On n'en a pas entendu parler et arrêtons de penser que c'est parce qu'on nous cache tout et on nous dit rien. Non, une campagne vaccinale, ça existe depuis très longtemps. On sait très bien ce que l'humanité doit au vaccin. Là, on est dans une situation qui fait que on est justement en attente de vaccins pour pouvoir essayer de passer une meilleure année que celle qu'on a connue l'année dernière. Et donc, du coup, essayons de raison garder et d'avoir un certain bon sens. C'est ce que je vous avais souhaité pour cette année 2021. J'espère vous avoir convaincu. Ce qui est un peu plus inquiétant, entre guillemets, et ça, c'est en parallèle, et ça commence à apparaître dans certaines revues scientifiques, c'est ce qui se passe en parallèle de cette crise sanitaire qui provoque des confinements, des couvre-feux, des restrictions sociales. On le sait, ça s'enchaîne, c'est totalement imprévu, ça évolue, c'est pas la même chose selon les pays, voire selon les régions, ainsi de suite. Je ne vous apprends rien. On a effectué un sondage il y a quelques jours, qui montre que 41% des Français expriment un sentiment de lassitude. Oui, 41%, je pense objectivement, je m'attendais à plus, mais effectivement, un sentiment de lassitude parce que ça fait un an que ça dure. Et 34% ressentent de la morosité. Oui, évidemment, on veut bien le croire. C'est un sentiment qu'on nomme fatigue pandémique et qui, paradoxalement, pourrait aboutir à une dégradation de l'épidémie de Covid-19. Et c'est ça qui est intéressant dans cet article de Futura Science qui présente deux récentes études qui montrent ainsi que l'ennui, et c'est un moteur majeur, du fait qu'on est moins attentif au respect des gestes barrières, et ce qui entraîne donc une augmentation de la circulation du virus. En fait, l'ennui, ça affaiblit non seulement notre capacité à être attentif, bien évidemment, mais il nous pousse également à se comporter d'une façon différente de celle qui engendre l'ennui, ce qui, dans le contexte épidémique, est assez problématique. C'est ce qu'explique Vanja Wolf, qui est psychologue de l'université de Constance en Allemagne. Donc, pour la première étude révélée dans cet article de Futura Science, qui était étude menée sur 924 personnes aux États-Unis et au Canada, les chercheurs ont demandé aux participants s'ils appliquaient bien les mesures barrières, hein, distanciation sociale, isolement, respect du confinement, ainsi de suite, et s'ils ressentaient un sentiment d'ennui. Donc, résultat, l'ennui, en fait, on a fait une corrélation entre le sentiment d'ennui qu'on peut avoir et le non-respect des gestes barrières. C'est assez étonnant. L'idée, c'est qu'on baisse sa vigilance parce que l'ennui, la morosité, la lassitude fait que quelque part, alors que justement, comme ça traîne, on devrait être beaucoup plus vigilant pour que le virus circule moins, eh bien non, cette étude-là montre un petit peu l'inverse. Il y a une deuxième étude qui a été publiée dans la revue International Journal of Environmental Research of Public Health, j'adore quand je parle anglais comme ça, cette deuxième étude, elle montre aussi que l'adhésion, justement, à ces principes de distanciation sociale, eh bien, cette adhésion, elle est largement diminuée, on est moins dans le respect des gestes barrières en clair chez les personnes qui déclarent s'ennuyer. Et l'idée, c'est que c'est pas par mauvaise volonté, en fait, c'est ce qu'estiment les chercheurs, c'est parce que l'ennui entraîne une diminution de la capacité à se concentrer et à faire attention aux gestes barrières. C'est un petit peu insidieux, quelque part, qui fait qu'on est dans un effet, une conséquence inverse de ce que l'on souhaiterait mettre en place. Les conséquences néfastes de l'ennui, ça ne s'arrête pas là non plus. On sait très bien que tout ce qui va être sentiment de désœuvrement, ça va augmenter l'impulsivité, ça va augmenter les pratiques addictives, hein. Les jeux vidéo, l'alcool, la drogue, la dépression, l'anxiété aussi. Ce qui est intéressant, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies a révélé qu'un usager sur 10 a augmenté sa consommation d'alcool pendant le confinement. Un usager sur 10. Et l'activité de poker en ligne a fortement progressé, notamment dans la catégorie des 18-34 ans. Donc du coup, cette pratique addictive va être une conséquence également de ce sentiment d'ennui, de morosité qui est mis en place. Et du coup, l'idée, c'est que de ces études, on en tire la conclusion que les restrictions qui se prolongent, les interdictions trop strictes, eh bien tout ça, on voit que leur efficacité va s'effilocher au fil du temps. Et donc, il faut essayer, en fait, de se dire qu'on ne va pas retrouver l'esprit qu'on avait lors du premier confinement, qui était quelque part une nouveauté et qui fait que on était beaucoup plus attentif. Là, on a avec cette expression « vivre avec le virus » aussi, fait en sorte peut-être que, quelque part, il y en a pour certains une certaine fatalité, d'autres, pour d'autres également, l'idée de se dire que ça ne me concerne pas, que je ne serai pas nécessairement touché, et que même si je suis touché, j'aurai quoi, un petit mal de tête pendant 3 jours, et ainsi de suite. Et donc tout ce relâchement, cet ennui, volontaire ou non, c'est ce qu'expliquent les chercheurs, a donc un effet totalement contraire à ce qui est attendu au départ. Il va falloir trouver un équilibre pour les gouvernements du monde entier pour essayer de trouver une véritable efficacité contre cette guerre, puisqu'on nous a dit que c'était une guerre face à ce virus. Et ces études montrent finalement que ça ne va pas être aussi simple. C'est un peu des premières études qui apparaissent et on va en voir de plus en plus, parce qu'évidemment avec un an de recul, on va essayer de mieux comprendre le fonctionnement, bien sûr, l'efficacité des confinements, mais aussi, et on en parle de plus en plus, des effets secondaires et délétères également de toute cette crise épidémique. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance, j'en suis désolé, mais en tout cas, c'était important de, bien sûr, évoquer également le coronavirus. C'est la fin de cette émission, j'ai pas eu le temps de vous parler de deux choses qu'on évoquera la semaine prochaine. La première, c'est de se dire, oui, on parle énormément du virus, mais on a l'impression qu'il y en a partout. Et en fait, il y a une étude qui montre que si on récupérait tous les coronavirus, le Covid-19, partout dans le monde, si on récupérait tout ça, eh bien, on ne pourrait même pas remplir une canette de coca. C'est une étude qui a été faite, qui est totalement bluffante. C'est-à-dire que finalement, ce virus est tellement petit que si on récupérait tout ce qui existait sur Terre, on n'arrive pas à remplir une canette de coca. C'est assez étonnant, on évoquera ça la semaine prochaine. Et autre information, on n'a pas le temps dans cette émission, mais on évoquera les 20 ans du séquençage du génome humain pour la première fois. C'était le 15 février 2001. Toutes les toutes premières bribes du génome humain étaient dévoilées dans un article paru dans la revue Nature. Et donc 20 ans après, on fera un petit peu le point sur cette information. Il est 13h pile. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Je vous souhaite une bonne journée. Il fait soleil ici en Picardie. Profitons-en. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Merci de votre fidélité, de votre attention. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.